France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ma maman. Ma maman, c'est Sophie. On a un lien fusionnel qui fait que c'est comme ma meilleure amie. Je raconte tout. Mais j'ai le respect d'une fille envers sa mère.
Manon, c'est mon précieux. J'ai tellement eu peur de la perdre que je me suis rendu compte à quel point je l'aimais. Elle a senti que toute cette histoire m'a quand même fragilisée et elle est devenue très protectrice et son petit surnom, c'est mon petit pitbull. Elle est tellement courageuse et forte et en tout cas, voilà, elle me rend très très fière. Et...
Physiquement, même si je suis un peu plus métisse et les cheveux un peu plus bouclés, je lui ressemble. J'ai toutes ses mimiques, toutes ses gestuelles, sa façon de regarder, de me tenir, de parler.
C'est l'histoire d'une jeune fille un peu plus mate de peau que ses parents qui entend d'abord le bruit de la rumeur. Il germe, il rampe, il chemine et puis tout d'un coup, c'est la calomnie qui se dresse, qui siffle, s'enfle et grandit à vue d'œil. C'est l'histoire de ce qui se transmet à la naissance par les liens du sang et de ce qui passe par les liens du cœur. Sophie et Manon, telle mère, telle fille, comme ces couples qui finissent par se ressembler, ont les mêmes expressions, les mêmes intonations. Mère et fille coordonnées, fusionnelles, sauf que voilà, il y a cette histoire qu'on raconte aujourd'hui. Au Japon, l'histoire un peu différente d'un garçon élevé par erreur dans une famille pauvre a quand même rapporté à sa victime plus de 200 000 euros de dommages et intérêts, le prix de la pauvreté, de l'indigence évalué bien plus cher que celui du sang. Pour l'heure, Sophie et Manon n'ont pas obtenu grand-chose, si ce n'est la vérité et la chance de garder intact leur lien de mère à fille et de le renforcer peut-être, comme on l'entend jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un reportage de Jérôme Sandelard réalisé par Emmanuel Geoffroy.
On ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'est là que vous habitez ?
Oui. À Toron, dans l'arrière-pays grassois, à 1200 mètres d'altitude, sous la neige, depuis 2007.
Il neige à gros flocons.
Oui.
Pourquoi vous avez choisi de venir vivre ici ?
Parce que je suis accompagnatrice de tourisme équestre et auparavant j'avais des chevaux, donc le contexte s'y prête pour les promenades, pour les randonnées, c'est idéal. Je me suis pris de passion pour les chevaux et du coup j'ai migré vers la montagne et la campagne. À la maison. Il fait chaud.
Un salon sur la droite.
Voilà, un couloir. Au fond, vous avez la chambre de Manon, la chambre de sa sœur qui a 15 ans et de son petit frère qui a 10 ans. Nous vivons ici tous les quatre. J'élève seule mes enfants.
Il y a une jeune fille là qui a l'ordinateur.
Manon qui est là, ma fille aînée.
Bonjour.
Bonjour.
Tu as quel âge toi ?
19 ans. Je vais avoir 20 ans cet été, mois de juillet.
Et en ce moment, vous continuez les balades équestres ou pas ?
J'ai dû arrêter suite à ce qui nous est arrivé. J'ai fait une grosse dépression, donc je n'étais plus en mesure d'avoir des responsabilités et d'assumer mon travail.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
À l'âge de 17 ans, je suis tombée amoureuse. J'ai rencontré le papa de Manon. Nous avons rapidement habité ensemble et puis eu l'envie d'avoir un enfant. Donc, je suis rapidement tombée enceinte. J'avais 18 ans et donc j'étais heureuse. Et puis, ensuite, j'ai accouché d'une petite fille merveilleuse. C'était le plus beau jour de ma vie. Elle était très belle, à croquer. Souriante, agréable. Tout le monde se retournait sur son passage. Jusqu'à ce qu'elle change, qu'elle grandisse, qu'elle frise, qu'elle devienne plus mate de peau. Donc de là, voilà, les questions ont commencé à se poser. Dans le village dans lequel on vivait, des rumeurs ont commencé à courir sur mon infidélité envers mon compagnon, qui les a entendues, et donc ça a créé un peu des malentendus. Donc moi, ayant des origines espagnoles, je me suis vite rassurée en me disant que ça devait remonter à des générations passées. Dans ma famille, il y a des personnes mates, il y a des personnes frisées, donc rien ne me choquait plus que ça.
Et votre compagnon, comment il réagissait, lui ?
Toutes ces rumeurs, tous ces ragots ont fini par semer le doute dans son esprit. Et il n'a pas réussi à créer de lien paternel avec Manon. Il n'y arrivait pas, donc on a fini par se séparer. Donc à l'âge de 3 ans, Manon ne l'a plus vue.
Manon, tu les entendais, ces rumeurs qui étaient colportées dans ce village dans lequel vous viviez ou...
Oui, je les entendais, en fait, pas de la bouche des parents, mais de la bouche des enfants, parce qu'un enfant, tout ce qu'il entend dire de ses parents, il va forcément le répéter. Donc j'avais le droit de temps en temps, dans la cour, à tuer la fille du facteur. On sait très bien que ton père, c'est pas ton père. Ta maman, elle a trompé ton papa. Enfin, tout ça en ayant 3 à 4 ans, même pas. Je les prenais assez mal, donc la première fois que c'est arrivé, j'en ai parlé avec maman, afin que je comprenne pourquoi ils étaient méchants comme ça. Donc de là, maman m'a de suite expliqué que les adultes pensaient ceci et cela, alors que ce n'était pas le cas, donc j'ignorais.
Après, je pense que le papa de Manon a eu besoin d'avoir des réponses, il ne pouvait pas rester sans savoir, donc il a demandé un test ADN. En contestation de paternité, ce qui a pris 2 ans de procédure. On a été convoqués pour faire les tests ADN tous les 3.
Manon avait quel âge à ce moment-là ?
Elle allait sur ses 10 ans. Et donc un mois après, ils nous ont fait revenir pour refaire des prises de sang parce qu'ils ne comprenaient pas. Et 6 mois après, j'étais convoquée dans le bureau de mon avocate pour me donner les résultats des tests. Elle n'y est pas passée par 4 chemins. Elle m'a dit que le père de Manon n'était pas son père, même parce que je n'étais pas la mère. Ce qui a été un grand choc, un bouleversement total.
Et votre compagnon, qui est parti, lui, c'est ça, quand Manon avait 3 ans,
oui.
Comment il a réagi quand vous lui avez dit que finalement vous n'étiez ni l'un ni l'autre les parents biologiques de Manon ?
C'est pas moi qui lui ai dit, c'est son avocate. Et il a contesté sa paternité et puis il est sorti de la vie de Manon définitivement. C'est son choix. En premier lieu, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai eu peur qu'on nous sépare, qu'on me la prenne. Et j'ai eu peur pour le bébé que j'avais mis au monde. Je me suis demandé ce qu'elle était devenue, si elle allait bien. Je me suis même demandé est-ce qu'elle est encore en vie. Et puis à la fois, il fallait que je l'annonce à Manon aussi, que je lui dise les résultats des tests. Ça m'a pris plusieurs semaines avant de le lui dire, parce que je savais que j'allais bouleverser sa vie pour toujours. Quand j'ai décidé de lui annoncer, je lui ai demandé de venir dans ma chambre. On s'est réfugiés toutes les deux, et puis je lui ai annoncé les choses avec des mots les plus simples possibles. Et elle a eu très peur, elle s'est mise à pleurer. Et là, je l'ai rassurée du mieux que j'ai pu, en lui disant que j'étais sa maman, que personne ne nous séparait, que je l'aimais de tout mon cœur, que ça ne changeait rien.
Ma plus grande peur, ça a été de me dire, est-ce qu'on va m'enlever à elle, en fait. Je n'avais pas du tout de curiosité vis-à-vis de mes parents biologiques, c'était pas où sont mes vrais parents, ou non, ça a été, est-ce qu'on va m'enlever à ma maman, parce que ma maman, pour moi, c'est celle qui m'a élevée depuis que je suis toute petite, qui est là depuis mes premiers jours, avec qui j'ai grandi, donc ça a été ma plus grande peur, d'être séparée d'elle.
J'ai de suite déposé plainte parce que c'était le seul moyen de retrouver mon enfant biologique. L'enquête a été ouverte et l'ont retrouvé à peu près 3 mois après. Il y a eu 1 an et demi d'enquête pour comprendre ce qui s'était passé. Quand j'ai accouché de Manon, elle a eu ce qu'on appelle une jaunisse. Donc ils l'ont prise à plusieurs reprises pour la mettre sous des rayons, sous des lampes. Et à ce moment-là, une sage-femme déséquilibrée et alcoolique s'est trompée, a interverti les bébés qu'elle avait déjà mis tête bêche dans le même berceau. La veille de ma sortie, quand ils me l'ont ramenée, j'ai vu une différence. J'ai vu qu'elle avait plus de cheveux. Je me suis interrogée, j'ai interrogé l'infirmière qui était présente, qui m'a répondu que c'était normal, c'était les rayons qui faisaient pousser les cheveux. Donc, j'ai pas insisté, je suis rentrée chez moi avec mon bébé et mon compagnon. Et moi, je m'en veux aujourd'hui de pas avoir insisté. Plus taper du poing, de m'être plus imposée. Moi, bon, j'avais 18 ans, mais... Suite à l'enquête, ils ont retrouvé l'autre famille. Donc on s'est rencontrés à la gendarmerie, d'abord entre parents. On est tombés dans les bras l'une de l'autre parce qu'on était tellement désemparés. Ensuite, on a organisé donc un rendez-vous tous ensemble chez eux. C'était un moment de bonheur, de malaise... C'est vraiment étrange.
France Culture, les pieds sur terre.
Qu'est-ce que vous attendiez de cette rencontre ?
Des réponses, voir que ma fille biologique, l'enfant que j'ai mis au monde, allait bien, était heureuse, ne manquait de rien. Voir dans quel environnement elle avait grandi, elle vivait. Même si Manon est ma fille, j'ai quand même mis cet autre enfant au monde et je l'aime instinctivement. Donc, ça m'a rassurée.
Le jour de la rencontre avec l'autre famille, c'était un jour un peu particulier quand même parce que ce jour-là, je me suis retrouvée face à 2 inconnus dans lesquels je retrouvais... mes traits physiques, enfin, toutes ces ressemblances qu'on a avec nos parents biologiques. Donc, j'ai découvert que je tenais mes cheveux de ma mère, que mon nez, la couleur de mes yeux, venaient de mon père, et que les deux étaient réunionnais. C'était un peu troublant.
Ils avaient d'autres enfants, ces gens ?
Oui, 2 enfants. Un petit garçon et une petite fille.
Comme ici, alors.
Oui, la même qu'à la maison. Après, pendant un an, c'est vrai qu'on s'est vus. Mais progressivement, on s'est détachés. Parce que on ne peut pas avoir 4 parents. C'est pas possible. On ne peut pas avoir 2 mamans et 2 papas. Ça devient instable, en fait. On n'a pas de racines vraiment définies. On a toujours cette question de qui je vais mettre en premier. Est-ce que je mets ma mère biologique parce que c'est mon sang, ou est-ce que je mets la personne qui m'a élevée mais c'est quand même ma maman, donc au bout d'un moment, il faut une stabilité. Donc on s'est éloigné petit à petit, comme ça, en fait.
En ce qui me concerne, je n'ai jamais réussi à me faire une place dans la vie de ma fille biologique. Je ne suis pas sa maman, je ne suis pas une tante, je ne suis pas une cousine, je ne suis pas une marraine. Je me suis toujours sentie comme une étrangère. Et donc c'est douloureux. Mais elle a une maman qui l'a élevée et qu'elle considère comme sa maman. On ne peut pas lui en vouloir, c'est normal. Donc la distance s'est créée peu à peu toute seule. Elle s'est installée au fur et à mesure du temps.
Elle vous ressemble ?
Oui. Oui, elle me ressemble. C'est l'enfant que j'ai porté, que j'ai mis au monde. C'était un déchirement de me séparer d'elle à nouveau.
Et faire l'échange, ça s'est jamais posé ?
Faire l'échange ne s'est jamais posé. C'était même pas envisageable, ni pour l'une ni pour l'autre. Dans l'idéal, comme n'importe quelle maman aurait pu penser, ça aurait été de garder les 2 enfants pour soi. C'est juste qu'on aime ces 2 petites filles, quoi.
Cette histoire m'a totalement déstabilisée. On va dire qu'arrivé à l'adolescence, un ado qui rentre en crise, il va avoir tendance à se brouiller avec ses parents. Parce que c'est comme ça, on se rebelle contre l'autorité parentale, on veut affirmer qui on est. Alors que moi, à cette époque-là, j'ai fait tout l'inverse. Je me suis encore plus rapprochée de ma mère. Mais par contre, je suis devenue assez méchante envers le corps enseignant de mon collège, mes propres amis. Puis après, ça a beaucoup joué sur ma scolarité. Parce qu'en langue vivante, en anglais par exemple, les bases, c'est la famille. Donc j'ai une prof d'anglais qui nous avait demandé comme exercice de faire notre arbre généalogique. Et là, ça a été la grande question. Je mets quelle mère, je mets quel père, je mets quels grands-parents, quels petits frères et sœurs, ou je mets tout le monde et je lui ramène ça et elle me regarde, elle me dit c'est une blague. Donc voilà, après pareil, ça m'a causé des torts au lycée. En SVT, par exemple, on travaille sur l'ADN. Et un exercice tout bête, hein, par exemple, identifier à partir de cette plaquette qui est la mère et qui est le père. Exercice impossible à faire pour moi. Même si j'avais 14 ans et que ça faisait déjà 5 ans que je savais l'histoire, c'était pas possible. C'est un exercice qu'on ne peut pas me demander. Et quand je l'ai signalé à ma prof d'SVT, sa réaction a été « J'en ai rien à faire, tu me fais cet exercice ou c'est zéro. » Donc je suis partie de la salle parce que, en gros, elle remettait en question mon honnêteté envers elle. Parce que pour elle, c'était un mensonge, c'était juste une excuse pour pas faire l'exercice.
Et aujourd'hui, t'as l'impression que c'est derrière toi ou...
Ça va mieux, mais après, dépasser cette histoire d'un point de vue douleur, non, parce que pour ça, il faudrait que, juridiquement, cette histoire soit classée également. Recevoir tous les 6 mois des courriers d'un avocat nous disant que cette histoire est toujours en pleine procédure juridique, c'est pas possible. En France, il y a des histoires juridiques qui sont réglées en 6 mois. Nous, ça fait 10 ans.
L'infirmière puéricultrice a été expertisée par l'enquête de gendarmerie. L'expertise psychiatrique qui a donc montré qu'elle était dangereuse pour les enfants. Elle était dépressive, elle prenait donc des médicaments et de l'alcool sur le lieu de travail. Donc elle a été destituée de ses fonctions, bien sûr. Et depuis, ça traîne en longueur sur des audiences. Ça passe d'une audience à l'autre. On n'a pas vraiment de nouvelles. Et c'est pour ça que je souhaiterais que justice soit rendue pour avoir déjà cette reconnaissance du mal qu'on nous a fait par un jugement qui reconnaît les responsables de cet acte.
Parce que la clinique, au jour d'aujourd'hui, n'a pas reconnu sa responsabilité ?
Elle la reconnaît, mais elle ne s'est jamais exprimée auprès de nous. Elle ne nous a jamais donné un signe de vie, ni un mot, ni en 10 ans.
Et elle dégage aussi sa culpabilité en employant les propos suivants. C'était au maire de faire preuve de discernement.
Selon la clinique, ça aurait été à nous d'être plus vigilants, alors qu'on s'en est rendu compte. Et moi, je m'en veux aujourd'hui de ne pas avoir insisté quand j'ai vu qu'elle avait plus de cheveux, de ne pas avoir insisté. Je souhaiterais que les responsables soient punis, parce que voilà, cette culpabilité, je l'ai moi aujourd'hui. C'est pas eux qui l'ont. J'aimerais retrouver ma respectabilité publique parce que j'ai été très salie par les ragots dans le passé. Toute cette histoire a eu de graves conséquences sur notre vie psychologique et sur ma vie sociale aussi. J'avais monté un centre équestre et j'ai craqué et j'ai tout perdu. J'ai dû tout arrêter. C'est un trop-plein d'angoisse qui a créé une peur permanente de ce qui peut nous arriver.
Comment tu envisages l'avenir, toi ? Manon
Sans enfant. Je veux pas en avoir, je veux pas que mon enfant vive ce que moi j'ai pu vivre. Moi, à l'âge de 9 ans, on m'a volé mon enfance, donc j'ai pas envie que mon enfant, à je ne sais quel âge, on lui enlève tous ses rêves, toute son innocence d'enfant. J'ai plus confiance dans le corps médical.
Et faire de ta maman une grand-mère ?
Malheureusement, elle verra avec ses autres enfants pour être grand-mère. Compte pas sur moi pour l'instant, non, je veux pas.
C'est quoi ce que tu portes autour du cou, Manon ?
La petite île de la Réunion en pendentif que j'ai eu comme cadeau à l'âge de mes 12 ans.
Qui est-ce qui te l'a offert ?
Ma famille biologique. M'ont offert pour que je connaisse un peu la petite île. Aller faire un tour là-bas, histoire de voir les paysages, les gens. C'est un de mes projets après mes études. Aussi voir les volcans, parce que quand j'étais petite, c'est vrai que c'était un peu un de mes passe-temps, regarder les volcans. Et là-bas, il y a deux volcans, le Piton des Neiges, alors qui est recouvert de neige pratiquement toute l'année. Alors que c'est un volcan, normalement c'est un point chaud. Puis après il y a le Piton de la Fournaise qui se jette dans la mer et qui chaque année agrandit un petit peu l'île. Car la rencontre entre la lave en fusion et l'eau, ça forme des roches. Donc l'île s'agrandit petit à petit grâce au volcan. J'ai envie de le voir en vrai, autre qu'en vidéo ou qu'en photo. Je veux le voir de mes propres yeux.
Et tu partiras avec ta maman ?
Ah, je sais pas.
Moi, j'aimerais. J'aimerais voir son visage ce jour-là. I caught sight of my reflection. I caught it in a window. I saw the darkness in my heart. I saw the signs of my undoing. They had been there from the start. And the darkness still has work to do. The knotted cords untying.
Everything they're buying in a blood of Eden lie the woman and the man, with the man in the woman and the woman in the man. In the blood of Eden lie the woman and the man. We wanted the union, oh, the union of the woman. Is surely slipping. I think I've lost my hold. Yeah, I think I've lost my hold. I cannot get insurance anymore. They don't take credit, only gold. Is that a dagger or a crucifix I see? You hold so tight.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Les Liens du Sang, un reportage de Jérôme Sandelat réalisé par Emmanuel Geoffroy et diffusé pour la première fois dans Les Pieds sur Terre le 5 mars 2014. Depuis la première diffusion de cette émission, nous avons donc contacté récemment Sophie et Manon, 4 ans plus tard, pour avoir des nouvelles, mais elles ne souhaitent plus communiquer. Du moins, Sophie a fait comprendre à Jérôme Sandelat, l'auteur de ce reportage, que si elle s'exprimait à l'avenir, ce serait en son nom propre. Ce qui nous a laissé penser, peut-être, qu'elle préparait un livre. On vous tiendra bien sûr au courant. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Céline Autin, notre stagiaire.